lycéennes d'Aubusson vous présentent leur chronique infernale.
Bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, attachez vos ceintures, car nous plongeons dans les profondeurs de l'enfer avec Asbin Hotel. Si vous pensiez que l'enfer était un endroit sinistre et effrayant, détrompez-vous. Cette série d'animation nous offre une perspective complètement déjantée et hilarante sur la vie après la mort. Imaginez un hôtel dirigé par Charlie, la princesse optimiste de l'enfer, qui a pour mission de sauver les âmes damnées en les rendant dignes du paradis. Oui, vous avez bien entendu, l'enfer a maintenant un programme de réhabilitation. Mais attendez, ça devient encore plus fou. L'équipe de Charlie est composée de personnages hauts en couleur, des démons aux personnalités loufoques et aux motivations pour le moins diaboliques. Premièrement, nous avons Angel Dust, le séduisant démon drag queen, avec son sens de la mode flamboyant et son attitude désinvolte. Angel Dust apporte une touche de glamour à l'enfer, et peut-être même un peu de paillettes. Ensuite, il y a Alastor, surnommé Radio Démon. Imaginez un croisement entre un animateur radio des années 1930 et un démon terrifiant. Sa voix envoûtante et son sens de l'humour noir en font un personnage à la fois charmant et effrayant. Mais ce n'est pas tout. Asbin Hotel regorge de personnages mémorables, comme un démon surprotecteur Husk, l'ex-tueur à gages Nifty, obsédé par la propreté, et bien sûr le terrifiant démon Serpentius, avec son obsession pour les serpents et les gadgets diaboliques. Chaque épisode est une explosion de couleurs, de chansons entraînantes et de blagues cinglantes. Et ne vous laissez pas tromper par son esthétique mignonne, colorée, car Asbin Hotel aborde également des thèmes plus profonds, comme la rédemption, l'acceptation de soi et les relations interpersonnelles. En résumé, Asbin Hotel est une véritable perle infernale qui ravira les fans d'animation et les amateurs d'humour noir. Alors si vous cherchez à pimenter votre séjour en enfer, réservez une chambre au Asbin Hotel dès maintenant. Vous ne serez pas déçus, ou peut-être que si, mais au moins vous passerez un bon moment. C'était votre guide du voyage en enfer, signé Radio Inferno, votre source numéro 1 pour tout ce qui concerne l'au-delà.
Pêcheurs récalcitrants, vous aimez le sang, la violence et la dépravation sexuelle?
Oh, papouneige! Tu t'attends vraiment à ce que je mémorise tout ce texte?
Évidemment, c'est pour cela que vous croupissez en enfer! Mais que diriez-vous si je vous apprenais qu'il existe un lieu de villégiature exempt de toutes ces horreurs? Bienvenue à l'hôtel Asbin! Votre toute dernière planche de salut, c'est par ici! Alors, qu'en dites-vous?
Pardon, mais c'était quoi cette grosse daube?
Ouais, un point de détail. C'est notre dernière chance de pouvoir convaincre le paradis qu'une âme peut se racheter. Bonjour, monsieur.
Va niquer ta grand-mère!
Imaginez vouloir une chose tellement fort que vous puissiez presque la goûter.
Tu veux aider les pêcheurs? Alors putain, c'est trop drôle.
Un sentiment comme un tambour dans le cœur.
Tout ce que j'espère, c'est que mon projet soit une belle réussite.
T'es défoncé ou quoi?
Tiens-moi ça, toi.
Ça brûle, ça brûle.
Tu sais que pour la toute première fois...
Oh putain, mais non, pour toi.
Il nous reste 24 heures avant que l'extermination ne commence. Restons concentrés.
Même si l'avenir est encore fou, je vais devoir être prête à tout.
Ils vont être anéantis. Ils vont tous crever.
Car pour la toute première fois, on sait que l'on sera prêt à tout.
On va montrer au paradis qui on est.
Nous les réduirons en cendres.
Il est temps de se débattre contre ces anges qui désirent nous tuer.
On ne reviendra pas en arrière. Il est temps de partir en guerre. Nous serons prêts, toujours fiers.
L'heure est venue de rappeler à tout ce beau monde le pourquoi de ma présence ici.
Espérons que je serai prête à tout.
Je suis un méchant monsieur qui n'a jamais eu de gros câlins. Où trouver un gentil môme à qui je pourrais vendre un peu de drogue?
Qui a écrit ça?
C'est super, non? Vas-y, continue.
Bonjour à tous, nous allons parler d'une série, d'un livre, d'un chef-d'œuvre. J'ai nommé Good Omens, de Terry Pratchett et Neil Gaiman, deux auteurs phares de la littérature britannique. Livre adapté en série sur Amazon Prime Video depuis 2019. Commençons par le commencement, et donc par les auteurs, Terry Pratchett et Neil Gaiman. Terry Pratchett, majoritairement connu pour sa saga de fantasy humoristique aux multiples tomes, genre vraiment beaucoup, il y en a 41, Les Annales du Disque Monde. Et Neil Gaiman, qui est notamment l'auteur de la série de comics Sandman, adaptée en 2022 par Netflix, très bonne série si ça intéresse quelqu'un, mais qui est également l'auteur du livre Coraline, adapté en film d'animation en 2009. Et oui, si vous voulez vous plaindre à quelqu'un pour vos traumatismes d'enfance, c'est à lui. Merci Neil Gaiman.
En 1990, ces deux messieurs ont sorti un roman du nom de Good Omens, traduit en français comme De bons présages, qui fut plus tard adapté en série d'Amazon par Neil Gaiman lui-même, mais pas par Terry Pratchett, malheureusement décédé. Alors, Good Omens, c'est quoi ? Good Omens suit l'histoire d'Aziraphale, un ange, et de Crowley, ou Rampin en version française, un démon, qui essayent tous les deux d'empêcher l'apocalypse. Vont-ils y arriver ? Suspense ! Good Omens est une série gorgée d'humour et de situations hilarantes, c'est la patte Terry Pratchett, mais qui est également porteuse de questions profondes, telles que « Qu'est-ce que le bien et le mal ? Sommes-nous obligés de choisir un camp ou ne pouvons-nous pas être nous-mêmes ?» De plus, on suit l'évolution de la relation de Crowley et Aziraphale, de leur histoire d'amour, car c'est le mot, et on voit comment ils vont peu à peu comprendre qu'au-delà des classifications paradis, enfer, ange, démon, ils sont avant tout dans leur camp. Et c'est rafraîchissant que ça soit par l'humour omniprésent ou la galerie de personnages haute en couleurs, car en plus de Crowley et Aziraphale, nous avons un jeune antéchrist débordant d'imagination, un livre de prophétie, des anges pas si gentils, ou encore des nonnes satanistes et des chasseurs de sorcières pas très doués. Ce cocktail de drôlerie, d'aventures, de personnages, de relations bien écrites, d'émotions et d'éléments fantastiques donne une petite pépite, it's absolument unique, portée par le jeu d'acteur parfait de David Tennant, alias le docteur dans Doctor Who, et de Michael Sheen, qui joue Arrow dans Twilight, entre autres. Et pour finir, 12 épisodes, pour l'instant, de pure délice.
I am an angel. You are a demon. We're hereditary enemies. Get thee behind me, foul fiend. After you.
Armageddon's days away, and we've lost the Antichrist.
We have to work together.
We have nothing whatsoever in common. I don't even like you.
You do.
If we don't find it, it'll be the war to end everything.
Adam, where are we going?
The end of the world. It's not far.
The Earth isn't going to just end itself.
The four horsemen of the apocalypse are being summoned. War, pollution, famine, death.
Who exactly summons them?
Not my department.
The end of the world starts here.
You don't get tornadoes in England!
We do today!
The boy, he's coming into his power.
You sure?
Would I lie to you?
You're a demon, that's what you do.
We're doomed. Welcome to the end times. It's nice and hangy.
We can't give up now.
Start the war.
There doesn't have to be a war.
Of course there does. Otherwise, how would we win it? Last great battle between heaven and hell.
To the world. To the world.
Dua Lipa est une chanteuse, auteure, compositrice, interprète britanno-lipanaise. Elle est née le 28 août 1995. Celle-ci est donc âgée de 28 ans. Elle est aussi née à Londres, au Royaume-Uni. Dua Lipa a ses deux parents, Anessa Lipa, sa mère, et Dukaji Lipa, son père. De sa taille, 1m73, elle fait aussi mannequin en parallèle de sa principale activité. Elle a aussi travaillé avec beaucoup d'artistes, dont Angèle pour le titre Fever, Miley Cyrus, Bad Bunny ou encore Calvin Harris. Son registre musical se dirige surtout vers la pop, disco ou encore house music, etc. Son label n'est autre que Warner Bros, avec qui elle signe en 2014, ou encore Vertigo. Elle a reçu... 6 Brit Awards, 3 Grammy Awards, etc., etc. Maintenant, je vous laisse avec un morceau de Dua Lipa. New Rules.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count them. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn,
no way,
no way to turn.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
Parler maintenant de bien et de mal autour de l'environnement, nous allons nous intéresser aux nuisibles, dont un peu connu, le chat. Et contrairement aux autres nuisibles, comme le rat, nous les accueillons volontairement chez nous, ou devrais-je dire plutôt que c'est lui qui nous accueille. Le chat n'est pas considéré officiellement comme une espèce nuisible, mais en Pologne, il est en revanche considéré comme une espèce invasive. Le chat correspond à 100% aux critères d'une espèce exotique envahissante. Originaires du Moyen-Orient, les chats ont été domestiqués par les anciennes civilisations pour leur capacité à chasser les rongeurs. Cependant, avec la mondialisation, les chats ont été transportés sur des continents lointains où ils se sont reproduits rapidement, devenant des prédateurs voraces pour la faune locale. Les chats domestiques et errants se reproduisent à un rythme alarmant, ce qui entraîne une surpopulation dans de nombreuses régions du monde. Le problème est exacerbé par le fait que bon nombre des chats errants ne sont pas stérilisés ou castrés, ce qui contribue à une augmentation exponentielle de leur nombre. Sous ces airs de boules de poils attachantes, de mignons petits matous ou de futurs maîtres du monde se cache en réalité un véritable assassin. Le chat serait ainsi responsable de la mort de 1,3 à 4 milliards d'oiseaux et 6,3 à 22,3 milliards de petits mammifères selon la revue scientifique Nature, causant alors la disparition de nombreuses espèces, déséquilibrant les écosystèmes locaux. Des études récentes montrent que les chats sont responsables de l'extinction de plus de 63 espèces d'oiseaux, de mammifères et de reptiles depuis 500 ans. Il aurait par exemple aidé à la disparition des dodos. Bien que les chats soient des compagnons appréciés dans de nombreux foyers, il est crucial de reconnaître leur potentiel en tant qu'espèce nuisible et invasive, et de prendre des mesures pour minimiser leur impact sur l'environnement.
Hier, j'ai parlé avec une sorcière. On a discuté football et poésie hier. Puis, je lui ai dit que j'aimerais qu'elle m'apprenne à kidnapper son mini, 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 mini derrière. Transformé en chat comme ça, petit roux tigré, les dents cassées, genre chat de gouttière. Depuis, je me promène sur les toits, je crie, c'est moi, vous ne me reconnaissez pas. Ta gueule, chat, ta gueule, chat. Avec ses petits airs d'arbre en fleurs, j'ai eu envie de lui grimper dans les bras, voilà.
Tu aurais dû commencer par ça. Tu aurais dû te méfier de moi. Tu aurais dû arrêter de scruter la noisette, celle qui me sert de bouche. Te voilà avec une gueule de chat, à funambuler sur les toits, avec Aline comme lampe de chevet, et personne pour te laisser rentrer chez toi.
Une cérémonie chelou, un dragon, un prince et une famille complètement toquée, regardez damsel. Une dame étrange vient vous rendre visite pour proposer à votre père de vous marier avec leur fils venu d'une contrée dont vous ne connaissez pas le nom. Votre père, happé par l'objectif illusoire de couler sous un flot d'or en échange de votre mariage, ne prend pas le temps de penser à votre bonheur. Mais méfiez-vous du loup qui dort, car derrière leur air royal se cache une montagne de mensonges et de trahisons. Mais alors, qui est réellement ce prince qui vous emmène à une funeste cérémonie dans une grotte où leur mère lie votre sang au sien pour ne former plus qu'un? Qui est cette reine qui vous jette dans une grotte dont vous n'avez aucune chance de sortir? Par chance, vous réussissez à esquiver tous les jets de lave lancés par la gueule du dragon et ne ressortez qu'avec une modeste brûlure. Votre vie est alors mise en jeu et la roue tourne. Votre père est tué en essayant de vous sortir de là-bas et vous retrouvez votre mère accablée sur la route. Quel dilemme infernal! Retournez sauver votre sœur ou sauver votre peau. Allez-vous réussir à vous extirper de cette grotte de l'enfer? You know when you will watch damsel.
I have made a match. A prince. We need this. Your people need you.
I need you to listen to me now. I don't trust them.
They may be royalty, but that doesn't make them good people.
Your hand, child.
Close your eyes. I've got you.
Join a long line of women who have helped to build this kingdom. It is this sacrifice we commemorate every generation, a tradition going back centuries, a legacy of honor and duty you now inherit.
Woman whose life was stolen. Seize her! You know nothing of our story. This is the end of your story.
D'Aubusson vous présente leur chronique infernale.
Nous allons prendre quelques minutes pour débunker quelque chose d'ancré dans la mémoire collective. Le fait que le Moyen-Âge était platiste. La plupart des gens savent que dès l'Antiquité, il y avait des suppositions et preuves sur la sphéricité de la Terre. De grands philosophes n'en doutent pas comme Platon ou Aristote. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le savant grec Ératosthène calcule même, avec une précision stupéfiante, la circonférence de la Terre. Au Moyen-Âge, les écrits d'Aristote sont toujours connus et des auteurs chrétiens comme saint Augustin affirment la sphéricité de la Terre. Il existe bien sûr des platistes comme Cyrien Cosmas au VIe siècle pensant même la Terre carrée. Or, pendant la Renaissance, de nombreuses idées du Moyen-Âge vont être rejetées. Cette époque serait alors le début d'une virulente critique du Moyen-Âge. Voltaire est alors l'auteur d'un pamphlet où il est fait témoigner des auteurs chrétiens marginaux qui pensaient que la Terre était plate, en faisant passer leurs idées pour la conception dominante dans l'Église. Il y a ensuite mélangé cette idée avec le procès de Galilée. C'est ainsi que le procès de ce dernier sur l'héliocentrisme se transforma en procès sur la sphéricité de la Terre dans l'esprit de nombreuses personnes. Alors qu'en réalité, à cette époque, l'Église était en adéquation avec Ptolémée. La Terre était vue comme une sphère immobile, entourée d'autres corps célestes, sphériques, qui tournent autour d'elle. De même, Christophe Colomb ne se sera jamais battu contre des platistes, malgré ce que pourra dire, en 1828, Washington Irving, qui fait paraître une biographie de Colomb, « A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus », laquelle est souvent prise pour un travail universitaire rigoureux, alors que c'est un livre très romancé. L'idée de la Terre plate est aujourd'hui, pour certains, une vérité. Au XXe siècle, l'anglais Samuel Shenton fonde la Flat Earth Society, une organisation qui soutient que la Terre est plate, toujours en activité aujourd'hui, soutenant aussi l'existence d'un complot des agences spatiales, des services de contrôle aérien et des États, ainsi que des fabricants de GPS. En définitive, l'histoire de la Terre plate au Moyen-Âge illustre comment certaines idées fausses peuvent s'accrocher à l'imaginaire collectif, même contre toute preuve et raison. Elle préfigure également les théories complotistes modernes, soulignant l'importance de la rigueur historique et scientifique dans la compréhension de notre passé et de notre présent. C'est impressionnant comment certaines idées peuvent rester collées à l'histoire comme du chewing-gum sous une chaussure.
C'était il y a très longtemps.
En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Gibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt elle changeait de forme. Au milieu du ciel, il y avait la Terre qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien. Sur la planète Gibi, il y avait des animaux qui s'appelaient les Gibi. Voici un Gibi vu de près. En voici un autre. Et quand il y avait trop de Gibi d'un côté, la planète penchait, les Gibi glissaient, il y en avait qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Gibi. Sur la planète Shadok, il y avait des Shadok de deux sortes. Des Shadok avec des pieds en bas qui vivaient au-dessus de la planète et des Shadok avec des pieds en haut qui vivaient de l'autre côté et qui servaient à soutenir la planète par en dessous. Comme la planète Shadok changeait de forme, il y avait des Shadok qui tombaient. C'était très gênant, surtout pour les Shadok. Les Shadok et les Gibi en eurent donc assez au bout d'un certain temps de vivre sur des planètes qui ne marchaient pas bien. Alors ils décidèrent les uns et les autres d'aller sur la Terre qui avait l'air de mieux marcher.